Frères et sœurs, les amis, nous voilà rentrés à nouveau après ces fêtes de la Pentecôte, dont je rappelle que cette fête clôturait le grand cycle lumineux de Pâques. Nous rentrons à présent dans le temps ordinaire, mais encore avec quelques fêtes perlées ici ou là, comme celle que nous fêtons ce week-end, ce dimanche, la fête de la Sainte Trinité. Alors, je vais m'arrêter, si vous le voulez bien, il y a longtemps que je ne l'avais plus fait, sur la première lecture du livre du Deutéronome, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. En fait, quand on lit les quelques versets qui nous sont donnés de ce chapitre 4, c'est la question de qui est donc Dieu, ce Dieu dont nous parlons. Moïse disait au peuple d'Israël, c'est ainsi que commencent les versets que nous lisons, « Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. » Alors nous allons voir comment le texte est construit. Alors, qui donc est Dieu? Voilà la première question que nous pouvons nous poser, en même temps que le livre du Deutéronome. Pourquoi? Parce que c'est la question lancinante, c'est la question qui habite tous les cœurs, qui habite le cœur de tous les hommes. C'est la question de l'humanité, depuis le premier jour et jusqu'au dernier. Alors, il n'y a pas 36 manières d'y répondre, il y a deux façons d'y répondre. Soit nous trouvons la réponse par nous-mêmes, tout seuls, j'allais dire, dans notre coin, comme des grands, mais cela suppose que le mystère de Dieu soit à notre portée, que nous ayons la facilité de pouvoir l'expliquer justement par nous-mêmes, ou bien laisser Dieu nous souffler lui-même la réponse. Je prends exprès le verbe « souffler » car nous venons de fêter la Pentecôte, vous ai-je dit tout à l'heure, et la Pentecôte se manifeste par un vent violent, par un souffle violent. Alors laissons donc Dieu nous souffler lui-même la réponse. Parce que c'est Dieu lui-même qui va nous donner cette réponse et qu'il va développer tout au long du livre du Deutéronome, d'une part, mais tout au long, très spécialement, de l'Ancien Testament. Alors, la fête qui nous est proposée ce week-end, la fête de la Sainte Trinité, alors c'est très bizarre, c'est peut-être pas l'adjectif qu'il faut employer, mais moi je trouve ça quand même bizarre, c'est que nulle part dans les textes, vous ne trouverez et vous ne pourrez lire le mot « Trinité ». Il n'existe pas et il n'est pas une seule fois présent dans la Bible. Alors, quand on dit ça, pourquoi ? Pourquoi il n'est pas présent dans la Bible ? Et pourquoi est-ce que, n'étant pas présent dans la Bible, la liturgie, on a fait une fête spécifique avec un dimanche de la Sainte Trinité ? Bien, les choses sont assez faciles à répondre. Tout simplement parce que lorsque Dieu tente de se révéler à l'humanité, le polythéisme, c'est-à-dire la multiplicité des différents dieux, envahissait le monde et envahissait les peuples. En effet, quand Dieu choisit le peuple élu pour se révéler aux hommes, l'ensemble de l'humanité était polythéiste. Alors, dans ce contexte-là, bien évidemment, il était impossible pour l'homme d'entendre des messages contradictoires ou des doubles messages. Dieu est un et il est en trois personnes. Alors, dans sa pédagogie, Dieu a donc été révélé d'abord comme le Dieu unique. Et ce Dieu un et unique n'est pas solitaire. Alors, nous n'allons pas revenir sur l'unicité de Dieu. Je vous rappelle très souvent que la multiplicité ne détruit pas l'unité. J'allais dire bien au contraire. Quand on est multiple, on cherche ce qui peut nous unir. Hein. Dieu est donc Dieu en trois personnes distinctes, dans une unique communion d'amour. Autrement dit, il faut toujours chercher qu'est-ce qui unit les personnes. C'est l'amour. Et l'amour ne peut être que unique. C'est Saint Bernard qui disait « J'aime parce que j'aime », tout simplement. Alors, cette première étape s'est déployée tout au long de l'Ancien Testament. Et les prophètes de l'Ancien Testament, justement, ont lutté de manière incessante contre le polythéisme. Et on peut comprendre, après tant et tant et tant de siècles d'insistance de la part des prophètes sur cette unicité de Dieu, ce Dieu qui est un, le prophète de Nazareth, à savoir la personne même du Christ, apparaît comme étant un et unique. Car après sa résurrection, les amis du Seigneur, les disciples, ont médité certainement toutes ces paroles. Et ils ont pu entendre la deuxième partie, si je puis dire, du message, de la révélation, ce Dieu un est en trois personnes. Parce que Dieu, le Père, est unique, le Fils est unique et l'Esprit-Saint est unique. C'est cette unicité des personnes qui, j'allais dire, quel qu'en soit le nombre, hein, nous rappelle et nous redit que chacun et chacune d'entre nous, à notre tour, nous sommes des personnes une et uniques. Alors, cette pédagogie de Dieu, deuxième point de notre méditation, dans les versets que nous entendons et que nous avons lus de ce livre du Deutéronome, très curieusement, il n'y a pas de définition de Dieu, ni même de description de Dieu. Par contre, et c'est ce que je trouve pour ma part tout à fait génial de la part de l'auteur du Deutéronome, il y a une très longue énumération des œuvres de Dieu pour l'humanité, pour son peuple élu. C'est ce que je vous ai rappelé tout à l'heure, dans le premier verset entendu, « Interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. » Voilà, on parle de la création. On parle donc en définitive des œuvres. Dieu, en définitive, a parlé à son peuple au travers de ses œuvres. Et il a donné comme menu, comme recette du bonheur, les commandements. C'est ce qui est dit à la fin des versets que nous lisons. « Tu garderas tous les jours les commandements et les ordres du Seigneur. » « Alors, pas de définition de Dieu, pas de présence du terme Trinité, mais, en contrepartie, une litanie émerveillée, si je puis dire, de toute son œuvre, l'œuvre de la création. Et je trouve ça génial de la part de l'auteur de faire en sorte que, au travers de l'œuvre de la création, comme elle est si parfaite, cette création, et si parfaitement établie et régulée, faut pas oublier que c'est grâce à la contemplation de la création que le grand saint Augustin finit par se convertir. Eh bien, le peuple élu va découvrir, au travers de cet émerveillement de la création, que Dieu se révèle dans la création et qu'il est donc un Dieu créateur et qui plus est, un Dieu qui va se révéler en choisissant un peuple élu, en choisissant une nation, en choisissant un temps donné de l'histoire, qu'il va s'accaparer et qui va montrer à l'humanité tout entière que véritablement, Dieu ne laisse pas tomber la création qu'il a produite, mais qu'il s'y intéresse, et qu'il s'y intéresse de près, et qu'il intervient pour elle à de multiples reprises. Et ça, nous pouvons le toucher du doigt dans l'Ancien Testament. Il va même donner une terre à ce peuple élu. Il va peu à peu dévoiler les secrets du bonheur et de la vie, très spécialement au travers des personnages qu'il a choisis, Moïse, entre autres, puisque c'est de lui dont il s'agit dans la lecture que nous avons accueillie du Deutéronome, Moïse disait au peuple d'Israël. Alors maintenant, on peut imaginer spontanément qu'au travers de l'œuvre de la création, on découvre un Dieu de puissance, mais un Dieu qui s'est révélé parce que seul Dieu peut parler de Dieu, pour finir. Seul Dieu peut parler de lui-même de manière, j'allais dire, valable et véritable. Eh bien, la meilleure façon de parler de lui-même, eh bien, ça a été le mystère de l'incarnation, de nous envoyer son propre Fils. Voilà, j'allais dire une fois de plus, tout simplement. Cette présence permanente de Dieu auprès de son peuple, eh bien, il nous restera à découvrir qu'elle n'est pas simplement réservée à Israël, mais à l'ensemble de l'humanité, et que Dieu est le Dieu de tous les hommes. C'est très beau, parce que Dieu ne recherche pas la gloire pour lui-même, mais il désire partager cette gloire avec nous. Et s'il y a eu un peuple élu, et il y a eu un peuple élu, bien évidemment, eh bien, c'est le peuple élu qui va découvrir que justement, il a été élu, non pas au détriment des autres, mais au service des autres. Le peuple de l'Alliance, et j'allais dire, l'instrument de l'alliance des peuples. Ce n'est pas un jeu de mots, mais ça me semble important de rappeler ça, et que nous découvrons cette largesse du cœur de Dieu, qui n'a pas non plus créé le monde pour lui-même, mais qu'il a créé pour le bien de toute l'humanité. Alors vivons intérieurement, si vous le voulez bien, cette fête de la Sainte Trinité, de chacune de ces personnes dans la beauté de leur unité, et que j'allais dire, la fête de la Sainte Trinité, c'est ce paradoxe merveilleux de la parole de Dieu, parce qu'il n'y a que là qu'on le découvre, eh bien, on parle beaucoup plus de l'unité que de la Trinité, parce que chacune de ces personnes étant un unique Dieu qui s'est révélé par la multiplicité et la richesse de sa personne et de sa personnalité, et très spécifiquement sur le plan théologique, par le mystère de la révélation. Dieu a tant aimé les hommes qu'il nous a envoyé son propre Fils. Amen.